Voix Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. Le prince Harry, son épouse Meghan et leur bébé Archie, âgé de 4 mois, effectuent à partir de ce jour en Afrique australe leur première visite officielle en famille depuis la naissance de leur fils. Le duc et la duchesse de Sussex vont débuter leur voyage de 10 jours dans la ville sud-africaine du Cap, une destination prisée des touristes pour ses immenses plages, ses vignobles, mais gangrénées par des violences de gangs dans les townships. Pour certains en Afrique du Sud, la présence de Meghan, une américaine métisse descendant d'esclaves du côté de sa mère, pourrait faire de cette visite un événement particulièrement spécial. Les autorités congolaises entendent introduire un deuxième vaccin anti-Ebola à la mi-octobre, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, alors que Médecins sans frontières, MSF, vient d'accuser l'OMS de rationner le premier vaccin en RDC, où une épidémie de la fièvre hémorragique a déjà fait quelque 2100 morts en plus d'un an. L'agence spécialisée de l'ONU a précisé que le vaccin, qui requiert l'administration de 2 à 56 jours d'intervalle, sera administré à des populations à risque ciblées dans des régions où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Et le président congolais, Félix Tshisekedi, a affirmé dimanche qu'il voulait changer les mentalités dans sa lutte contre la corruption dans son pays, en RDC, sans règlement de compte et sans fouiner dans le passé des responsables encore aux commandes. Eric Manirakiza.
Je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé, a dit le président Tshisekedi en réponse à une question sur l'impunité des crimes économiques. On n'a pas de temps à perdre dans des règlements de compte, a-t-il ajouté. Des ONG occidentales ont accusé la générale des carrières et des mines Gécamines d'avoir détourné des centaines de millions au bénéfice du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Le directeur de cabinet Vital Kamerhe est cité sans être nommé dans le rapport de l'inspection générale des finances transmis le 31 juillet au parquet. Selon ce rapport, 15 millions de dollars destinés au trésor public ont été versés sur un autre compte qui a été vidé avec le directeur de cabinet du chef de l'État parmi les 4 responsables. Cette somme correspond à une ristourne de 15% sur 100 millions de dollars versés par l'État aux compagnies pétrolières pour compenser le gel des prix à la pompe. Ce n'est pas une affaire de détournement de l'argent qui devait aller dans les caisses du Trésor, a-t-il affirmé. C'est une affaire de rétrocommission. L'enquête judiciaire portera sur le fait de savoir si la rétrocommission était destinée aux caisses du Trésor, assure M. Tshisekedi.
Le nouveau premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a formé un comité chargé d'enquêter sur la répression meurtrière d'un sit-in de manifestants qui avait fait des centaines de victimes en juin à Khartoum. Il s'agit d'un comité indépendant composé de 7 personnes, dont des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense et d'autres membres indépendants. Il devra présenter son rapport dans les 3 mois. Au Niger, les autorités ont lancé la semaine dernière les travaux de construction d'un oléoduc pour exporter le pétrole brut vers les côtes béninoises. C'est une société chinoise qui réalise les travaux pour un montant d'environ 5 milliards de dollars, et cela sur 2 ans. Les précisions de notre correspondant Abdul Razak Idrissa à Niamey.
Le président Issoufou Mahamadou a qualifié l'instant d'historique.
Parce que nous venons de lancer le projet le plus grand de l'histoire du Niger depuis l'indépendance.
La mise en exploitation de ce pipeline est prévue pour le début de l'année 2022. Pour y arriver, la société chinoise CNPC qui réalise les travaux va investir près de 3 000 milliards de francs CFA.
Cet investissement va soutenir la croissance du Niger. À partir de 2021-2022, le Niger va connaître un taux de croissance de 12%. Ça veut dire que ce projet va apporter près de 6 points de croissance. Jusqu'ici, le pétrole contribue pour 4% du PIB, mais à partir de 2022, le pétrole va représenter 24% de la richesse créée dans le pays. Nous sommes désormais dans le cercle des pays véritablement producteurs de pétrole. Donc, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Monsieur le directeur aussi, je vous remercie infiniment.
L'oléoduc va relier les champs d'Agadem dans le sud-est du pays à la côte maritime béninoise, il est prévu une production de 100 000 barils par jour, ce qui fait saliver certains citoyens, mais inquiète la plupart.
On peut avoir du pétrole, l'exporter, gagner des ressources, mais avoir aussi une situation économique difficile et une situation sociale très lamentable. L'argent du pétrole peut aussi être accaparé par une minorité, auquel cas ça va entraîner plutôt des crises intenses, aussi bien politiques et autres. On l'a vu dans d'autres contextes. détresse ou effectivement les frustrations liées au fait que les revenus sont accaparés par une poignée d'individus qui en profitent peut aussi entraîner d'autres problèmes. Donc c'est ça qu'il faut prévenir. Et pour prévenir, il n'y a pas 1000 solutions. En fait, les solutions sont déjà dans nos textes fondamentaux, notamment la constitution du Niger qui indique clairement que ces ressources doivent être bien gérées dans l'intérêt bien compris des populations.
C'est en 2011 que le Niger a débuté l'exploitation de son pétrole grâce au gisement d'Agadem dans le sud-est du pays. Récemment, un nouveau bassin pétrolier a été découvert à la frontière algérienne au nord du pays. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'avocate égyptienne et militante des droits humains Maïnou El Masri a été arrêtée dimanche par la police égyptienne au Caire après avoir assisté aux interrogatoires des manifestants. D'après ses avocats, Maïnou El Masri avait été plusieurs fois détenue sous le régime du président déchu Hosni Moubarak et est l'une des figures du soulèvement qui a renversé celui-ci en 2011. Elle avait été de nouveau condamnée sous le régime du président Mohamed Morsi. 7 élèves d'une école primaire de Nairobi au Kenya ont été tués et des dizaines blessés dans l'effondrement de leur salle de classe ce matin. Jusque-là, nous pouvons confirmer que nous avons 7 morts et 57 autres écoliers ont été hospitalisés, donc blessés, a déclaré le porte-parole du gouvernement kenyan, Cyrus Oguna, s'exprimant sur les lieux du drame. Des centaines d'habitants de Dagoretti, une zone pauvre où les habitants vivent dans des abris de fortune, se sont rassemblés autour du site où les sauveteurs fouillaient les décombres pour trouver des survivants. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, décédé le 6 septembre à Singapour, à l'âge de 95 ans, souffrait d'un cancer à un stade avancé, a révélé son successeur Emmerson Mnangagwa, cité aujourd'hui par le journal d'État du Herald. Le chef de l'État zimbabwéen a fait ses révélations auprès de militants de son parti, la ZANU-PF, réunie à New York, où se tient cette semaine l'Assemblée générale des Nations Unies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les ministres de l'Intérieur de 5 pays de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Malte pour s'entendre sur une répartition automatique des migrants, un mécanisme réclamé par l'Italie pour mettre fin aux négociations au cas par cas à chaque sauvetage opéré en Méditerranée. Réunis pour une journée, les ministres de l'Intérieur allemands, français, italiens, finlandais et maltais doivent élaborer un dispositif qui permettra aux pays européens volontaires de se répartir de façon systématique les personnes secourues en mer. Une soixantaine de dirigeants mondiaux se retrouvent aujourd'hui à l'ONU pour un sommet sur l'urgence climatique censé revigorer le chancelant accord de Paris, alors que jamais l'humanité n'a rejeté dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre. 3 jours après que des millions de jeunes ont manifesté sur 5 continents pour le climat et 4 jours avant une nouvelle grève mondiale de l'école, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que des dizaines de leaders annonceront une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis vont chercher à obtenir un soutien international lors de l'Assemblée générale de l'ONU face à l'Iran. Washington et Riyad accusent Téhéran d'avoir attaqué 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite. À nouveau, Eric Manirakiza.
Je suis à New York, je serai à l'ONU toute la semaine pour en parler, a indiqué dimanche le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Le président Trump et moi-même voulons donner à la diplomatie toutes les chances de réussir. Nous espérons que les Nations Unies adopteront une position de fermeté, a déclaré M. Pompeo sur la chaîne ABC. Questionné sur l'envoi de renforts militaires dans la région annoncée vendredi par le Pentagone, M. Pompeo a souligné que l'objectif était de forcer l'Iran à prendre la décision de devenir un pays normal. Le président américain a cependant déclaré dimanche qu'il n'avait aucune intention de rencontrer son homologue iranien Hassan Rouhani à l'ONU. « Rien n'est jamais totalement exclu, mais je n'ai pas l'intention de rencontrer l'Iran », a-t-il dit. L'Iran nie toute responsabilité dans les attaques aériennes qui ont visé 2 installations pétrolières majeures en Arabie Saoudite le 14 septembre, qui ont été revendiquées par les rebelles Houthis soutenus par Téhéran au Yémen.
Une nouvelle à retenir, les autorités congolaises entendent introduire un deuxième vaccin anti-Ebola à la mi-octobre. L'agence spécialisée de l'ONU a précisé que le vaccin, qui requiert l'administration de 2 à 56 jours d'intervalle, sera administré à des populations à risque ciblé dans des régions où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent et bon début de semaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.